hurts real bad,
don't give up.
When it hurts real bad,
don't give up.
Yeah, I said don't give up,
don't give up.
No, don't give up,
don't give up.
Hurts real bad, don't give up. Quand ça fait vraiment mal, ne laisse pas tomber. Quand il n'y a plus d'espoir, ne laisse pas tomber. C'était le thème de la chanson. Bienvenue à toi ce matin, ici ou ailleurs, physiquement présent ensemble, ou virtuellement sur le stream, ou plus tard après sur le site web. Bienvenue, merci d'investir ce moment pour Dieu. Tu as fait le choix de le passer, de te mettre devant lui, d'investir dans la relation avec le Dieu l'Éternel. Sois-en béni. Merci aussi à toutes les mains visibles et invisibles qui ont permis que nous vivions ce moment ensemble ce matin. Nettoyage, préparation, la technique, l'équipe d'accueil qui s'assure du cadre sanitaire pour ce moment de réunion et qui fera les infections après. Dans le temps que nous vivons, dans la redéfinition de nos contraintes de vie, dans les changements presque quotidiens, notre relation verticale avec Dieu est un ancrage et nous assure la stabilité d'un amour inconditionnel. C'est un cadeau qu'il accorde à toute personne qui accepte Jésus-Christ crucifié et ressuscité comme étant le moyen de renouer la relation avec lui. Et la chanson qui a précédé, Don't Give Up, ne laisse pas tomber, c'est issue pour moi d'une rencontre au Canada, et elle m'accompagne de temps en temps quand justement le découragement vient, quand on a envie de laisser tomber, mais de rester debout et d'avancer, c'est ce qu'elle m'apporte. Je vous propose de prier pour ce matin. Dieu immense, Dieu puissant, créateur, juste, saint et relationnel, nous voulons invoquer ta bénédiction sur ce moment que nous vivons ensemble, que ton nom puisse être glorifié et que les éléments que nous évoquerons puissent nous raffermir dans notre relation à toi. Nous te prions par le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Avec notre cadre sanitaire de santé publique, nous n'avons pas le champ d'assemblée, mais je vous propose un moment de musique et vous pouvez murmurer les paroles qui viendront. Donc on va projeter la vidéo avec les lyrics, comme ça on peut s'imprégner de ces paroles et les vivre. On va avoir infiniment grand et je chanterai ta gloire.
Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus.
Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 33 à 38. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps, vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant, là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié trois fois. » Nous lisons dans Matthieu 26, les versets 69 à 75. Or Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à jurer, en lançant des malédictions, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Il sortit et pleura amèrement. Nous lisons dans Jean 19, les versets 5 à 11. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et d'après notre droit, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand il entendit ces paroles, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Jusqu'ici, la parole de Dieu.
Bonjour à chacune et chacun, tous ceux que je n'ai pas eu le plaisir de saluer à l'entrée. Avec cette procédure qui consiste à se laver les mains, signer. Nous allons nous pencher sur un thème global qui est en fait s'adapter. S'adapter, mais à quoi ? Comment ? Et il existe un principe naturel, un principe physique. J'ai toujours une petite surprise. Petit cornet surprise quand je prends la parole. Et en l'occurrence, j'ai un petit cube qui est un jeu, peut-être certains le connaissent, c'est un truc à rendre fou. J'ai jamais réussi à le faire, mais peu importe. Ce principe dit à une action correspond une réaction. Il paraît que c'est Isaac Newton au XVIIe siècle qui a dit ça, action égale réaction. Et ça décrit un peu tout ce qui se passe dans l'univers et les mouvements des astres et toutes sortes de choses. Je ne suis pas physicien, mais action égale réaction, on l'a appris à l'école. Par exemple, ce merveilleux cube, il illustre ce principe maintenant. Maintenant, on voit ce mécanisme. L'action... Ben, c'est que son propre poids l'attire vers la planète, vers le centre de la Terre, c'est l'action. Ma réaction, eh bien, je le porte. Et puis, comme les deux forces sont équivalentes, il ne bouge pas. Par contre, si je suis plus fort que l'attraction terrestre, je peux faire monter le cube. Si je suis moins fort que l'attraction terrestre, le cube descend. Bon, c'est juste un principe. Ce couple action-réaction peut aussi être observé dans d'autres domaines. Et nous allons regarder ça dans la biologie, dans la psychologie et dans la spiritualité. Globalement, réagir, c'est une manière de s'opposer à quelque chose, de résister à quelque chose ou éventuellement d'absorber ou de prendre à cœur quelque chose. Et en somme, réagir, c'est s'adapter à ce qui nous entoure avec plus ou moins de succès. Or, ce qui nous pousse à nous adapter, c'est un stress. Quand on doit s'adapter, on est stressé par une situation et par le temps. L'adaptation est donc une réaction plus ou moins urgente, et je vais prendre deux petits exemples. Si, par malheur, je vais être dans une situation où on n'a absolument pas le temps de réfléchir, on doit s'adapter sans aucun temps de réaction, eh bien, à ce moment-là, c'est un réflexe, on ne se pose aucune question. Alors, je pose ma main en discutant dans une cuisine, et par malheur, je pose ma main sur la plaque électrique qui est encore chaude. Maintenant, il y a des petits indicateurs qui disent si elles sont chaudes, mais à l'époque, la plaque pouvait être chaude, et on nous disait, attention, la plaque est chaude. Alors, si on pose la main sur une plaque chaude, on ne réfléchit pas un quart d'heure avant de se dire, oh là, je vais bientôt retirer ma main, n'est-ce pas, elle bouillit. Donc, on a un réflexe, on n'a pas de temps, pas de délai, c'est un réflexe de survie, on n'a même pas besoin du cerveau pour enlever la main rapidement de cette situation, pour s'adapter et pas griller notre main comme un steak. C'est une adaptation par un réflexe. Mais d'autres fois, on a le temps de réagir et on a le temps de réfléchir à la manière de s'adapter. Par exemple, si j'apprends qu'un danger peut m'atteindre dans un temps inconnu ou atteindre le milieu dans lequel je me trouve, prenons l'exemple d'une habitation où je sais que mon habitation se trouve dans une zone inondable, ça existe. Mais que la rivière voisine est à sec depuis des années, je vais peut-être avoir du temps pour m'adapter. Je peux réfléchir à la manière de m'adapter pour parer à ce danger d'un temps futur. Et mon stress d'adaptation sera un peu moindre parce que j'aurai plus de temps. Je vous propose d'examiner trois domaines de notre vie dans lesquels l'adaptation est requise. Trois domaines pour la clarté de l'exposé, parce qu'en fait, c'est trois composantes de notre personne qui sont intimement liées, mélangées, mais pour la clarté, je vais les séparer en trois. Alors, s'adapter sur le plan biologique, sur le plan du corps, s'adapter sur le plan psychologique, sur le plan des relations, des sentiments et des émotions, notre âme, et s'adapter sur le plan spirituel, notre relation à la transcendance, au métapsychique, au divin, à ce qui nous dépasse. Alors la question est, qu'est-ce qu'on adapte? Est-ce que c'est nous-mêmes ou est-ce que c'est d'autres choses? Alors, trois mots sur le plan biologique. Rester vivant, ça nous impose de nous adapter à toutes sortes de circonstances, toutes sortes de nécessités. Je dirais de manière un peu brusque qu'au niveau de notre corps, nous sommes engagés dans une guerre permanente contre la mort. Par exemple, pour lutter contre la dénutrition, nous devons trouver quelque chose à manger. Et on devient stressé quand on n'a rien à manger. Ça arrive très rarement sous nos cieux. Si nous devons échapper à des rigueurs climatiques, nous devons trouver des vêtements ou des abris. Au Canada, ils ont des grandes différences de température et des fois il fait moins 40 en hiver et plus 35, plus 38 en été. Ça, c'est pénible. Eh bien, les gens, il y a certaines personnes qui disent il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais habits. Vous voyez, une autre manière de dire, on s'adapte avec les vêtements. Alors, ces adaptations sont normales pour nous parce qu'elles sont faciles et on en a pris l'habitude. On s'adapte comme automatiquement, sans stress. Parce que la nourriture est là, les vêtements sont là, je veux dire, ces nécessités-là, elles sont presque oubliées. En revanche, pour une part importante de l'humanité, le souci numéro un, c'est de trouver de l'eau, c'est de la nourriture, trouver de la nourriture pour vivre, je dirais, la journée. Combien de témoignages n'avons-nous pas lu de femmes dans certaines régions subsahariennes notamment, dont la préoccupation majeure est de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école en n'ayant pu leur donner quelque chose à manger. Combien de gens ne mangent pas tous les jours? Ça, on ne se rend pas compte ici. Pour nous, qu'est-ce qui génère du stress ici? Du stress pour s'adapter. Mais c'est de devoir s'adapter à des situations nouvelles, menaçantes et invisibles. Si ces trois composantes sont réunies, nouvelles, menaçantes, invisibles, eh bien, on a du stress. Alors, on en a un exemple sous la main. C'est nous, ce matin. Vous avez des masques. On est à distance. On en a un exemple lumineux avec ce coronavirus, ce fichu coronavirus. Il est nouveau, il est menaçant, il est invisible. Il a tout pour plaire. Il correspond bien à la définition. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire comment on doit s'adapter. La manière dont nous avons dû nous adapter, et nous nous adaptons puisqu'on le vit maintenant, étant donné qu'on ne voit pas le virus, on ne sait pas où il est, et il se trouve que on doit suivre des consignes qu'on suit par la foi. On a même encore donné, là, ce matin, un petit papillon pour nous dire, voilà, attention, distance, lavage, éviter la contagion, on se dit bonjour comme ça ou comme ça. OK, on a modifié notre façon de vivre la vie communautaire. On s'y est plié par la foi, puisqu'on ne voit rien, on s'y est plié par la foi, pour augmenter nos chances de survie. On a adapté notre manière de vivre à cette réalité. On pourrait encore évoquer, je ne veux pas dire réjouissons-nous, mais c'est une expression des fois qu'on emploie, réjouissons-nous, il y a encore une nouvelle menace très sérieuse qui est en train d'apparaître. Ce n'est pas la deuxième vague du virus, parce que ça, elle est déjà apparue, mais il y a une autre menace extrêmement dangereuse, c'est la modification du climat. L'augmentation de la température de l'atmosphère pourrait, je ne suis pas assez scientifique pour donner des chiffres, mais pourrait devenir incontrôlable. Si cet emballement thermique se crée, eh bien, on ne pourra plus contrôler du tout le réchauffement de l'atmosphère avec des conséquences dramatiques. Cela nous impose déjà d'immenses travaux pour assainir l'atmosphère, modifier les moteurs, pas brûler trop de charbon, etc. Et modifier peut-être les installations portuaires, parce que la mer commence à monter, il faut augmenter la hauteur des quais, enfin, ça devient ultra compliqué. Et dans certaines îles, l'élévation du niveau de la mer est déjà là, et il y a des réfugiés climatiques. Les Maldives, 1,20 m au-dessus du niveau de la mer, bonjour les travaux pour échapper à l'engloutissement dans quelques années. Et chez nous, pour être proche de nous, nous avons construit des maisons pendant des décennies où on a tout fait pour que la chaleur reste dans les maisons. On a tout fait pour ça. Vitrage double, isolation à fond et tout, et maintenant on va devoir empêcher la chaleur d'entrer dans les maisons, faire tout l'inverse, retourner les glaces par rapport à la direction des infrarouges, je ne sais pas quoi. On doit modifier les maisons pour qu'elles ne prennent pas la chaleur, alors que jusqu'à maintenant, on gardait la chaleur. Il faudra tout modifier. Comment, maintenant, passons à cet aspect de la dimension relationnelle, sociale, l'âme, hein, le psychisme, le relationnel, l'émotionnel. La vie en société ou en communauté ou même en famille n'est pas toujours simplissime. Je ne vous fais pas de dessin, l'être humain est un peu retors parfois. La paix des ménages, voire des communautés, ressemble parfois à un exercice d'équilibre. S'adapter aujourd'hui, c'est présenté comme une vertu cardinale. Il faut s'adapter. Dans le milieu professionnel, alors ça c'est la doctrine numéro un, il faut s'adapter. On ne vous précise pas toujours à quoi, mais vous devez vous adapter. C'est souvent l'équivalent de « vous devez obéir aux consignes ». Bref, c'est une vertu cardinale et il est assez souvent dit, ou on entend souvent cela, que seuls ceux qui s'adaptent s'en sortiront. S'en sortiront, on peut parfois comprendre, seront bien considérés. Ça dépend du milieu. Alors, il faut certes s'adapter, mais à quoi précisément? Est-ce que s'adapter signifie arriver à tirer notre épingle du jeu? Est-ce que ça signifie être capable d'éviter un désagrément, plaire, suivre certaines modes, adopter certaines mœurs, constituer des réserves financières, acquérir plusieurs maisons au cas où un effondrement économique survenait. En somme, c'est un peu tout cela qu'on a sous ce vocable, s'adapter. Il faut s'adapter un peu à l'air du temps, comme on dit. À l'air du temps, ben oui, c'est un peu tout cela. Ne pas se mettre en décalage avec son époque, ses mœurs, ses valeurs, ses modes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut savoir jusqu'où on peut aller. Notamment en matière de conflit de loyauté, loyauté envers un tiers, loyauté envers soi-même. On va y revenir sur le plan spirituel. Dans l'immédiat, réfléchissons aux limites que nous pourrions nous donner à nous-mêmes dans ce processus d'adaptation à l'ère du temps, à la société qui nous environne, société post-chrétienne. Voyons le plan spirituel. Comme déjà dit, c'est un peu artificiel de séparer corps, âme, esprit, biologie, relations et sentiments et transcendance, parce que c'est mélangé en nous, ça fait un tout. Nous sommes à la fois biologiques, sociaux et spirituels, mais pardon, pour éviter toute confusion avec ce terme de spiritualité, je précise que je me réfère exclusivement au judéo-christianisme et non à l'animisme, au bouddhisme, à l'islam, au culte des ancêtres et tout ça. Non, on va se restreindre à notre spiritualité judéo-chrétienne. Qu'est-ce que cela signifie de s'adapter sur le plan spirituel? Cette formulation est un vrai charabia si on ne précise pas de quoi l'on parle. Alors je fais un petit exemple. À l'extérieur de cette communauté, de ce cadre là où nous sommes maintenant réunis, disons dès demain, est-ce qu'il sera aisé pour chacun de dialoguer sur le sujet de l'espérance chrétienne avec nos voisins, avec nos collègues de travail, pour ceux qui travaillent, avec des gens que nous allons croiser dans la rue et que nous ne connaissons pas encore? On sent qu'il y a un problème, on sent que ce n'est pas facile. Et une société post-chrétienne, la société que nous avons, ça veut dire une société dans laquelle une grande proportion de gens autour de nous considèrent en fait le christianisme comme une époque révolue, un temps qui était culpabilisant et qu'on se réjouit d'avoir dépassé. beaucoup de gens nous disent ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut adapter ? Devons-nous nous adapter à ce contexte ? À défaut, que devons-nous adapter et à quoi ? S'adapter consistant à réagir à une action, une réaction à une action, ça pourrait être réagir face à ce qui paraît être un obstacle au dialogue, notamment au sujet de l'espérance qui nous habite et que nous aimerions partager. Pour cette adaptation positive à cette société, en tant que chrétien, je dirais qu'il faut être d'abord au clair sur certaines choses. Première chose, il faut être au clair sur le contenu de notre foi. Savoir exprimer le contenu de notre foi et de notre espérance. C'est important de savoir le formuler. Deuxièmement, c'est être au clair sur les principes de vie, notamment moraux, éthiques, sur lesquels nous ne transigeons pas, fût-ce au risque de déplaire. C'est les données non négociables de nos valeurs de vie, les données notamment éthiques. À partir de cette base, dont nous pouvons parler très gentiment, il n'y a pas besoin d'être parano, on peut parler très gentiment des limites de ce que nous acceptons ou pas, il reste à distinguer ce qu'il faut adapter pour faire face à cette difficulté, cet obstacle à la communication. Je résume très rapidement quelques scénarios possibles. On pourrait adapter le fond pour rejoindre Mérin d'abord, le monde aussi. Adapter le fond, ça serait modifier la Bible pour la rendre attractive. Est-ce qu'on va modifier la Bible pour la rendre attractive ? Ben évidemment pas. On ne va pas modifier la Bible, ça c'est clair. Est-ce qu'il faut adapter la doctrine ? La doctrine, c'est les commentaires de la parole. Ben évidemment qu'il faut le faire. Ça tombe sous le sens. Il faut adapter les commentaires en fonction des découvertes, en fonction de l'archéologie, en fonction de beaucoup de choses que l'histoire nous montre. Est-ce qu'il faut adapter la formulation, la manière d'exposer le contenu de notre foi ? Bien entendu, je fais un peu les questions et les réponses pour aller plus vite. Bien entendu qu'il faut le faire, adapter la formulation. Parce que c'est pour ça qu'on traduit les commentaires et les Bibles en français courant, second 21, seconde étude, etc. Et il y a des formulations d'un même contenu, un contenu qui reste constant, mais la formulation change au gré du temps pour que la société comprenne. J'ai repris des très anciennes traductions, mais c'est à n'y rien comprendre. Et du temps des originaux, c'était certainement clair pour tout le monde, mais aujourd'hui, c'est à n'y rien comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on adapte la formulation sans changer le fond. Maintenant, est-ce qu'il faut adapter notre comportement aux attentes du monde qui nous entoure pour en être au moins apprécié, voire de lui plaire ? Si, comme chrétien, j'ai la conviction qu'il n'est pas obligatoire d'être repoussant, en revanche, je me demande sérieusement s'il est indiqué de chercher à plaire à la société qui nous entoure. Pourquoi ? Parce que le fait de plaire signifie le plus souvent adopter les points de vue et les comportements attendus de l'environnement social. À mon avis, c'est plutôt une préoccupation de politiciens envers leur électorat, cette obsession de ne pas décevoir, de ne pas déplaire, pour évidemment garder sa position. On va prendre quelques exemples concrets maintenant d'adaptation spirituelle en prenant nos textes. On ne va pas oublier nos textes, reniement de Pierre, procès de Jésus, on le fait rapidement. En prenant une petite maxime d'un physicien, Albert Einstein, 1947 à peu près, il a dit « Ne faites rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande. » Alors la question qu'on, qu'on a là-dessus, c'est jusqu'où va l'allégeance que nous avons faite, non pas à l'État, mais à Jésus, lorsque nous avons cru en lui. Dans notre premier texte que nous a lu Eric, Jésus vient d'annoncer à ses disciples que l'un d'entre eux va le trahir. L'un de vous me trahira. Vous savez, la dernière scène, ça a dû être une soupe à la grimace. Hein. L'un de vous me trahira. Bonjour l'ambiance. Et Jésus en rajoute une couche. Je vais vous quitter. Je vais vous quitter. Vous ne pouvez pas venir avec moi. Je vais partir. Vous ne pouvez pas venir avec moi. Et c'est une menace terrible dans le climat sociopolitique de l'époque, puisque les disciples attendaient évidemment le libérateur de la tutelle romaine, donc ils attendaient un type qui allait enfin montrer sa divinité. Et Jésus a dit non, je vais partir. Déception terrible, menace terrible, stress intense. Comment réagir? Alors, comment s'adapter à un stress devant cette menace? Alors, Pierre, homme toujours prompt à répondre, se positionne immédiatement. Pourquoi ne puis-je pas venir avec toi? Bon, d'accord. Je suis prêt à mourir, c'est-à-dire à donner ma vie pour toi. Question, est-ce qu'il s'adapte face à l'abandon annoncé? Dans un sens, oui. Parce qu'il fait une déclaration extrêmement courageuse dans le contexte. Je suis prêt à donner ma vie avec toi, pour aller avec toi. Bon, Jésus lui dit en fait que cette adaptation n'est pas spirituelle, elle est psychologique. Tu donneras ta vie pour moi? Ah bon? En vérité, je te le dis, avant que le coq ne chante demain matin, tu m'auras renié trois fois. Tu auras dit trois fois que tu ne me connais pas. Le deuxième texte, puisque c'est en fait le même, mais la suite, le reniement de Pierre, il est encore pire, à mon avis, que ce qu'on aurait pu imaginer. Si j'avais dû écrire un roman, je n'aurais pas écrit quelque chose de si. Ça ne me serait même pas arrivé à l'esprit que ça soit si effrayant de voir cette négation de tout ce qu'il a vécu avec Jésus. Pierre dit en substance, il veut s'adapter au contexte, hein, c'est le prétoire, Jésus va, ça tourne mal, ça tourne vraiment au vinaigre, Pierre va s'adapter à ce milieu pour sauver sa peau et surtout ne pas déplaire. Et en substance, il dit, je ne connais pas Jésus, je ne fais pas partie de son groupe, et finalement, je vous jure que je ne le connais pas. Des imprécations, il fit des imprécations, c'est-à-dire des termes forts. Je vous jure que je ne le connais pas. Ne m'embêtez plus avec ça. Donc, le problème, c'est que c'est vraiment le cauchemar. Pierre a réagi avec Jésus avec une grande présomption. Non, non, moi je viens avec toi jusqu'à la mort. Et puis, il a subi une immense déception parce qu'il a renié Jésus, alors il est déçu de lui-même, il est déçu de son adaptation désastreuse au conflit de loyauté qui était en lui. Et en somme, dans sa manière de s'adapter, Pierre a confondu la nature humaine et l'Esprit de Dieu. Sur le plan spirituel, l'adaptation ne consiste pas à nous tirer d'affaires ou à briller en société. C'est justement le contraire. C'est justement le fait d'y renoncer. S'adapter spirituellement, c'est laisser l'Esprit de Dieu nous adapter lui-même aux situations humaines qui nous désadapteraient. Action humaine, réaction spirituelle. Alors, il y a quelques exemples que je prends en conclusion. Jésus a, par exemple, c'était pas normatif, c'était un cas, une situation contextuel, ce n'est pas normatif, il n'a pas dit ça à l'Église, il a dit ça aux apôtres. Allez-y, proclamez le royaume de Dieu. Je vous envoie dans le monde, ça ne va pas être simple. Proclamez le royaume de Dieu et guérissez les malades. Et il ne leur donne pas, je ne sais pas si on vous envoyait en mission ou si je devais partir en mission, même une mission d'entraide, une mission professionnelle. Jésus leur dit, ne prenez rien pour le voyage. Ça, c'est pas très adaptatif. Hein. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Et n'ayez pas de chemise. N'ayez pas de chemise. Quelle que soit la maison où vous entriez, entrez-y, restez-y, jusqu'à ce que vous repartiez pour continuer votre route. Et si on ne vous accueille pas, partez de cette ville. Très curieux, ça. S'adapter sans aucun moyen de prévoyance, prévoir quand même un tout petit peu, je ne veux pas dire une valise ou un immense sac sur le dos, mais partir sans rien. Alors, c'est un autre contexte que le nôtre. Mais j'entends, il y a un détachement qui ne nous est pas du tout, qui ne nous est pas coutumier. Une autre adaptation, c'est à Corinthe, où Paul, il a une vision. Paul est un missionnaire vraiment très engagé. Il a une vision. Et à Corinthe, ça n'allait pas tout seul. L'esprit dans son rêve, dans sa vision, lui dit, parle, ne te tais pas. Continue, car je suis avec toi et il y a un peuple nombreux qui m'appartient dans cette ville. Là, Pierre, pour ne pas se dire, oui, mais il a dit aux apôtres, si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre, je vais partir jusqu'à ce que ça se calme, puis je reviendrai après, comme on aurait peut-être fait. Eh bien, le Seigneur lui donne l'enjeu. Là, c'est exceptionnel. Il lui donne l'enjeu de l'adaptation requise. Reste, continue à parler. Autre adaptation exemplaire, c'est la dernière avec notre dernier texte. L'adaptation spirituelle, la plus spirituelle qu'on puisse peut-être trouver, qui est une absence de réaction humaine. Alors ça, c'est vraiment paradoxal. Notre corps, notre âme, pas impliquée. Mutisme. Rester de marbre, de marbre. Lors du pseudo-procès de Jésus, quelque chose effraie particulièrement Pilate. Et ce qu'il effraie, c'est que les accusateurs de Jésus, après tout un palabre, je trouve rien en lui de condamnable et tout, jugez-le selon votre loi. Enfin, je veux dire, Pilate essaye un peu de sauver les meubles, bref, mais il est très effrayé. Et les accusateurs de Jésus lui disent, Jésus doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ça trouble terriblement Pilate, qui savait très certainement tous les miracles et tous les signes attestant de la divinité de Jésus qui s'était passé. Donc il est effrayé et il prend Jésus à part. Il prend Jésus à part dans le prétoire ou dans un endroit, et il lui dit, mais d'où viens-tu? Cette question est très frappante. D'où viens-tu? Et quelle est la réaction de Jésus? La réaction, ou vraiment l'adaptation spirituelle, puisque Jésus avançait dans ce sacerdoce, ben il dit rien. Il manifeste rien. Il dit plus rien. Mutisme, rien. Il ne se défend pas. Et ça, c'est une réaction qui suscite un grand étonnement. Un grand étonnement. Pilate finit par lui dire, Pilate était probablement agacé par le fait que le prisonnier dépendant de lui, vulnérable, qu'il aurait pu sauver, lui réponde pas et se défende pas. Il lui dit, est-ce à moi que tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te délivrer et le pouvoir de te faire crucifier? Alors là, Jésus prend une dernière fois la parole pour lui donner la juste interprétation de la situation. Et il lui dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. Donc, nous voyons que, en notre qualité de chrétien, notre adaptation à la société qui nous entoure, qui n'est pas une société faite d'hostilité, on est bien d'accord. Nous avons à chercher autant qu'il est possible de rester en bon terme avec notre société. Mais notre adaptation ne consiste pas à défendre les intérêts de la nature humaine, mais plutôt de laisser l'Esprit Saint susciter en nous, parfois à l'improviste, la réaction adéquate et spirituelle face à toute action, toute influence susceptible d'ébranler notre foi. Que le Seigneur nous assiste dans ce combat de la foi, cette forme de combat de la foi. Amen.
De méditation en musique, ensuite de quoi un chant, et nous passerons à la suite. Nous ne pouvons pas prendre le pain et le vin et communier ensemble, mais nous pouvons prendre quelques minutes pour nous placer devant Dieu en nous demandant quelle aurait été notre réaction, quelles auraient été nos paroles à la place de Pierre dans ces moments de la résurrection, quelle personne j'aurais été par rapport à celui que j'ai suivi pendant 3 ans. En ce moment, nous remémorer, savourer la signification de ce vécu de Jésus-Christ, mort sur la croix pour mes fautes, qui m'offre un salut si simple, par l'acceptation de son don et me prend avec lui dans sa résurrection pour cette certitude d'une place avec lui dans l'éternité avec Dieu. Je vous propose un moment de prière communautaire et je terminerai.
telle opposition dans le temps où tu étais avec nous, d'avoir supporté une telle opposition sans dévier, sans renoncer, et avec, en maintenant cette résolution qui te menait dans ce temps de terrible souffrance, parce que tu n'as jamais cessé de nous aimer, et nous te rendons grâce aujourd'hui de pouvoir encore bénéficier de ce salut que tu nous as apporté sur la croix. Amen.
Céleste, merci pour ce cadeau simple et gratuit du sacrifice de Christ sur la croix. Merci pour le sang versé. Merci pour le corps brisé. Merci pour la résurrection qui nous associe à ta vie et à cette possibilité de vivre notre vie éternelle avec toi. Merci pour cette grâce qui vient de toi. Merci pour tous tes dons. Merci pour la vie qui nous habite en toi. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons à la fin du culte. Est-ce qu'il y a des annonces particulières? Donc pour la sortie, libérer rapidement l'espace pour laisser la place à la désinfection, préserver les distances pendant les discussions à l'extérieur. Et puis après les mots de Philippe, de bénédiction d'envoi, il y aura une vidéo que j'ai particulièrement aimée. C'est des églises de toute la France mises ensemble pour chanter une bénédiction. Et puis elle nous accompagnera durant la sortie.
L'offrande dans la petite boîte, ne l'oublions pas, merci beaucoup. Merci, pensons à Bertie, en effet. Merci beaucoup. Je vous recommande de vous lever pour la bénédiction. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Que le Seigneur vous protège et vous conduise. Amen.
Ton Dieu se tourne vers toi. Simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction.
Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi. Plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants.
Que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veille sur toi dans les larmes. Et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi.
Chaque pas, veillant sur toi.